dans les représentations, dans toutes ces icônes ici, que l'on voit, il y a très peu d'allusions à des...
Très peu, effectivement.
Il y a des divinités qui sont au contraire très personnalisées à chaque fois
ça tend
chez
à
les Indiens.
Par contre, si
la
tu
déesse
vas...
de la richesse, celle de la fécondité, celle de la fertilité, celle du désordre.
Mais si tu vas, donc, par exemple, à la frontière de Hue au Vietnam, c'est-à-dire entre le nord qui est fortement sinisé et le sud qui a été pendant des siècles khmérisé, donc avec une forte culture hindouiste, tu vois justement qu'il y a une interpénétration de formes et de fonctions qui sont encore assez distinctives. Donc à la fois un bouddhisme affirmé et des citations de divinités hindouistes.
Oui, par exemple, il y a la présence de Ganesh est extrêmement forte.
Alors justement, à Saïgon, tu as des temples tout à fait étonnants où on lit à la fois les fonctions taoïstes, bouddhistes, hindouistes, et parfois tu as un mélange de tout cela, et ça donne lieu à une sorte d'espéranto religieux, le kaodaïsme, où l'on vénère à la fois Jeanne d'Arc, Victor Hugo, Allah, Bouddha, Jésus.
Oui. Mais je remarque, si tu veux, que le singe, l'éléphant, etc., qui sont si lourds dans la mythologie indienne, apparaissent là de façon plus narrative, plus littéraire, moins sacralisée.
Voilà. Absolument, parce que je pense que les Chinois n'ont retenu du bouddhisme que les formes de ritualisme. Parce que justement, toutes ces notions qui jusqu'alors n'existaient pas dans le vocable chinois, immortalité, paradis, etc., sont des notions qui restent, malgré leur traduction, extrêmement abstraites. Et donc les Chinois, là encore, c'est leur aspect pratique qui domine. Ne s'intéressent ou ne retiennent que les parties liées à la liturgie, au ritualisme, qu'ils vont développer également à la liturgie taoïste.